La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.
La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
Cette fois, ça y est, le HC Ajoie est parti en vacances et il est parti avec un gros soulagement. La fin de saison aura été éprouvante, physiquement, mentalement aussi, mais elle s'est terminée par un maintien acquis en barrage de promotion-relégation contre Viège. Contre Lugano, en play-out, le HC Ajoie a alterné le bon et le moins bon. C'était le cas aussi contre les Haut-Valaisans en barrage. Il a fini par s'en sortir et c'est ce qu'on retiendra dans ce dernier podcast de la saison. On distribuera les étoiles et l'épine du barrage et puis on dressera le bilan avec le président du club Ajoie, Patrick Auwert, qui est notre invité. On évoquera bien sûr avec lui la santé du club et ses perspectives. Et on finira avec notre traditionnel quiz pour clore la saison sur une note ludique et légère.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans ce podcast dédié au HC Ajoie. Voilà plusieurs semaines qu'on est tenu en haleine et qu'on n'a pas eu l'occasion de débriefer dans la bande du jeudi. Mais on va bien se rattraper. Aujourd'hui, c'est la 14e et dernière fois qu'on se retrouve cette saison avec mes acolytes Raffi et Julien. Bonsoir messieurs.
Salut Michel.
Bonsoir tout le monde.
Un petit pincement au cœur peut-être au moment d'aborder cette dernière ligne droite?
Non.
Pas du tout.
Petit soulagement d'avoir vu le HC Ajoie se maintenir en National League, surtout.
Surtout. Et puis, on va se consoler en se disant qu'on va finir en beauté, puisqu'on accueille le président du HC Ajoie, Patrick Auwert. L'an dernier, on avait posé la question, la réponse était claire. Dans le hockey, on se tutoie. Patrick, on est toujours OK avec ça?
Absolument.
Alors, salut, bienvenue à toi.
Merci.
Et puis, on imagine aussi que Raffi parlait de soulagement. C'est ton cas également.
C'est un grand soulagement, effectivement.
Le débrief.
C'est donc à moi que revient l'honneur de clore la saison des étoiles. On reprend nos bonnes vieilles habitudes et je vais donc décerner les étoiles du barrage contre Viège, donc les 5 matchs contre les Haut-Valaisans. Sans plus tarder, voici donc mes étoiles attribuées. J'ai mis 3 étoiles dans cette série à Jonathan Eisen, j'ai mis 2 étoiles à Damiano Ciaccio et j'ai mis 1 étoile à Anthony Onka. Voilà, je ne sais pas ce que ce choix...
Quelle surprise, Michel,
ouais, beaucoup de surprises, c'est vrai.
Ça fait de l'originalité, là.
Ouais, ouais. À fond, hein, ouais. Bon, on était obligé presque.
Audacieux, presque.
Ouais, il y a quand même, il y a quand même une sur laquelle on pourra peut-être débattre où j'ai un tout petit peu plus hésité. Mais je propose qu'on les prenne dans l'ordre. J'ai mis donc 3 étoiles à Jonathan Eisen. C'est le héros du barrage. Ça, je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le feu d'artifice final, Greg Island l'avait préféré ou l'a pas levé dans le premier acte. Perdu contre Viège. Le coach a ensuite changé son fusil d'épaule. Dès l'acte 2, et on a vu un Québécois revanchard, son talent a éclaté au grand jour dans ce barrage, il a marché sur Viège, détonateur, déstabilisateur, il a aussi été juste dans le dernier geste avec 8 points inscrits en 4 matchs, un quadruplé dans le match décisif, ça on va bien sûr le retenir pendant encore quelques semaines et quelques mois. Ça a récompensé donc son abnégation, une saison difficile pour lui dont on a beaucoup parlé, il a alterné le bon et le moins bon, mais au meilleur moment, a-t-on envie de dire, on a vu le meilleur Eisen. Voilà.
C'est la fameuse, comme on l'a déjà entendu 50 fois cette année, la fameuse bouteille de ketchup, c'est ça?
C'est un peu ça.
Il faut taper et puis quand ça sort, il y a tout qui vient d'un coup.
Exactement.
Ouais, écoute, ouais. Ça arrive au bon moment, quoi. Effectivement, avec ce festival du dernier match, quoi. Ouais.
Mais ça ferait un sacré scénario pour un film, là. Vous avez un joueur qui est mis de côté au début de la série, qui range son frère dans les tribunes, et qui ressasse toutes ses occasions manquées. Et puis voilà, dans la séquence finale, il débarque en marquant ses 4 buts. C'est beau le sport, ça démontre... Ce qu'on imaginait avant la série, c'est que Johnny, il avait quand même un sacré coup de patin pour faire la différence face à des joueurs de Swiss League. Et puis avec la confiance, on a vu le résultat.
Patrick, comment t'as vécu notamment ce quadruplé?
Non, mais j'en suis très heureux parce qu'effectivement, Jonathan, il doutait. Il a douté tous les play-outs depuis le premier match contre Lugano. Et après, il a été sorti du power play. Et puis là, il a absolument bien réagi. Je crois que c'était une excellente idée de refaire cette ligne Schmutz, Season et De Vos, même si au dernier match, au dernier moment, il y a encore une tuile qui est tombée sur la tête, puisque De Vos s'est blessé au dos en attachant ses patins. Donc, il a fallu faire appel à Palvet en catastrophe. Et puis, ça a bien marché. Donc, je pense que Jonathan Eisen, il va rentrer, se ressourcer au Canada, avec un moral au beau fixe, qui n'était pas le cas avant.
Ouais, je pense que quand on est président, on a aussi plaisir finalement à voir ces joueurs qui ont la rage pour le club et voilà, qu'on fait finalement.
Oui, bien sûr, mais alors on savait que Eisen De Vos... Ils allaient tout faire pour nous sauver de cette situation. Et puis, c'était vraiment une excellente idée de les mettre ensemble, quoi. Parce qu'on, on a retrouvé cette grinta qu'ils avaient à 10 ans en avant, en arrière, pardon. Donc, ils ont pas changé à ce niveau-là. C'est assez extraordinaire quand même.
Ouais, quelle longévité hein, pour ces deux hommes et donc les trois étoiles du barrage validées visiblement par tout le monde ici pour Jonathan Hazen. Si on enchaîne, j'ai mis donc 2 étoiles à Tchatcho. Lui non plus n'avait pas commencé la série, il est entré après 4 tiers précisément, là où le HCA était au bord du précipice, où on avait l'impression de vivre un mauvais film, hein. Mener un acte à zéro, mener 3-1 à Viège, on n'a pas forcément envie, j'imagine, autour de cette table, de se rappeler ces souvenirs-là, mais au décompte final, hein, il gagne les 4 matchs qu'il joue, réalise 95,2% d'arrêts dans la série, les chiffres parlent pour lui, il a aussi donné de la confiance, j'ai l'impression, à l'arrière-garde, au-delà de ses performances personnelles. Je trouve que ça a dégagé une forme de sérénité aussi. Il a fait des arrêts clés à des moments très importants également. On parle notamment de ce 3-1. Là, juste après, Ajoie revient bien. Il y a 2-3 arrêts qui sont déterminants parce que si Ajoie, si Viège, pardon, met le 4e, ça peut tout retourner. Et puis, j'ai l'impression que sur les matchs suivants aussi, il a été un facteur clé. Donc, voilà, j'estime qu'il méritait largement de figurer aux étoiles de cette semaine.
Et ça montre toute l'importance de pouvoir compter et s'appuyer sur deux gardiens de valeur en tout cas plus ou moins égale. Hein, quand il y en a un qui performe un peu moins bien, tu peux utiliser le deuxième. C'est ce qu'a fait le coaching staff dans ce barrage, ce qui n'était pas le cas, ben, on l'a vu aussi de Viège, hein, qui s'appuyait énormément sur son ange gardien Robin Meyer. Et puis ben, sur les deux derniers matchs, ça a été plus compliqué, quoi. Donc c'est quand même aussi une grande chance. Et puis effectivement, il a eu une part importante aussi dans ce maintien, en tout cas dans cette série. Donc je conçois qu'on lui attribue ces 2 étoiles.
Oui, c'est aussi toute une question de momentum. Hein. On se rappelle ce moment de changement de gardien. Hein. C'est rien contre Benjamin Cohns qui a fait aussi des gros matchs dans ces séries finales, là, ce 3-1. Là, changer le momentum, ça passe aussi par le changement de gardien et puis donner cette confiance supplémentaire au groupe. Là. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit aussi, Julien, dans n'importe quelle série, pour la gagner, il faut de bons gardiens.
Patrick, un regard sur la performance de Tchatcho?
Oui, 100% d'accord. J'entends, on dit souvent hein, que les play-offs, les play-out ou les barrages se gagnent. C'est le gardien qui les gagne et puis qui doit être à plus de 90% en tout cas d'arrêt. Tchatcho a bien fait son job. Ben, merci à lui et puis bravo. Ça va aussi l'encourager pour la saison prochaine.
Et on va passer donc à l'étoile, 1 étoile à Anthony Onca. C'est pas forcément uniquement pour te faire plaisir, Julien.
Mais ça me fait quand même plaisir.
Mais ça me fait quand même plaisir, sans doute pas, effectivement. Ben, c'est vrai que le regarder évoluer, lui, contre une Swiss League, c'est là qu'on voit toute la différence de niveau entre les deux ligues, hein, son patinage, sa vision du jeu, ses sorties de zone ont été tellement précieuses. On a l'impression que dès qu'il accélérait dans la zone viégeoise, il y avait danger, que les Viégeois ne savaient pas trop comment faire pour l'arrêter. Il a aussi été, voilà, au niveau statistique très bon avec un plus-minus de +7, hein, qui est considérable. 6 points aussi au compteur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais hésité peut-être pour à un moment donné pour l'étoile parce que j'ai trouvé aussi Kevin Fay admirable dans son rôle de capitaine, admirable dans l'attitude, dans le plus-minus aussi, il est à +7, hein, c'est les deux Ajoulois à +7. Après, Kevin Fay, il est moins décisif, mais je trouve que dans l'attitude, il a été impressionnant. On n'a pas arrêté de le dire dans cette série. Je crois qu'il a son set capitaine sur le maillot, il ne l'a jamais aussi bien porté que dans cette série. Et puis du coup, j'ai un petit peu hésité entre les deux hommes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que sans Onca, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tranché en faveur du Finlandais.
Ouais, Onca, moi, qui continue de m'impressionner, hein, comme depuis son arrivée. Et puis, pas grand-chose à ajouter. Hein. J'ai déjà dressé un beau portrait de lui aussi les dernières émissions. Et puis, encore une fois, ben, je me réjouis de le revoir ces prochaines saisons à Porrentruy. Mais c'est vrai que Kevin Fay aussi, ça aurait pu récompenser aussi, je dirais, presque l'ensemble de sa saison. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il a peut-être réalisé ça, épargné aussi plus par les blessures. Et puis, il a réalisé, à mon sens, peut-être sa meilleure saison.
Ouais, très constant. Hein.
Ouais, constant au sein du HCA.
Juste un petit bémol pour Anthony Onca. Moi, je trouve que parfois, il a un côté un petit peu showman qu'il assume pas tout. Parfois, j'aimerais qu'il aille un petit peu au bout de ses gestes. Là, on l'a vu tenter une fois le Michigan, hein, ses petits solos. Ouais. Des fois, on aurait envie qu'il fasse lever un petit peu plus souvent les tribunes. Non, Patrick?
Oui, mais
c'est pas ce qu'on lui demande.
On lui demande pas ça, justement. Je crois qu'on lui demande des fois un petit peu le contraire parce qu'il prend certains risques. Hein. On l'a vu aussi pendant la saison. Je crois qu'on a repris un goal une fois à 54 où il avait voulu faire
ça, Tony Rayala notamment là.
Exactement, où il avait voulu faire un petit peu son show. Donc je pense pas que c'est le coaching staff aime pas tellement ce genre de préoccupation là, mais à part ça, Onca, je veux dire, moi ça fait 25 ans que je suis au HCA Ajoie, c'est un joueur exceptionnel. C'est la première fois qu'on peut dire que dans notre coin de pays, on voit un joueur de ce niveau-là.
C'est le meilleur que tu as vu à Port-en-Truy ?
Je pense. Au niveau défensif, en tout cas, ça c'est clair. Parce qu'il a tout, il a la vitesse, il a le shoot, il a la vision de jeu, il a absolument tout pour lui.
En cas impressionnant. Et puis je vous propose, puisqu'on parle de lui, qu'on reste dans les étoiles et qu'on fasse un petit bilan de la saison. Et vous savez, pendant les 14 émissions avec celle d'aujourd'hui, on a délivré nos étoiles à chaque fois 3, 2 et 1, toutes les deux semaines, grosso modo, cette saison. Et puis donc, j'ai rassemblé le calcul définitif et puis on arrive avec 12 étoiles sur toute la saison pour Anthony Onka. Et on rappelle qu'il est arrivé seulement en octobre. Hein. Peut-être qu'il aurait fait un peu plus la différence s'il était arrivé avant. Et puis il y en a un autre qui aurait peut-être fait la différence si lui avait tenu toute la saison, c'est Turkulainen qui obtient notre deuxième rang à nous tous puisqu'on est passé tour à tour dans les étoiles. Lui récolte 11 étoiles, donc il a une seule étoile de retard sur Anthony Onka sur l'ensemble de la saison. Troisième, lui aussi récompensé pour sa constance, Philippe Michael DeVos. Quatrième avec 8 étoiles, pardon. Quatrième avec 7 étoiles, Benjamin Kons. Et puis cinquième avec 6 étoiles, c'est Julius Nettinen qui n'a donc pas terminé la saison. Voilà donc notre top 5 des étoiles. Onka, Turkulainen, DeVos, Kons, Nettinen dans l'ordre. Messieurs, vous avez l'impression que ça résume globalement bien la saison du HCA?
Ben ça résume une chose déjà, c'est que les mercenaires ont été plus souvent devant... qu'à leur tour, quoi. Donc ça veut quand même dire que le HCA Joie a beaucoup tenu par ses joueurs étrangers durant la saison, là, avec évidemment Turkulainen et Onka en tête.
Ouais, constat identique. Je suis déjà presque impatient d'être à la reprise prochaine en espérant que Turkulainen soit parfaitement remis et puis d'avoir des joueurs en même temps comme Onka, Turkulainen ensemble et puis en espérant qu'ils soient tous valides, ça risque d'être sympa à voir, quoi. Ouais.
Patrick, il y a un brin de fierté quand même en tant que dirigeant, quand on voit ces étrangers briller à ce point, quand on arrive à faire un coup comme Belmar, un coup comme Onka, quand on a Turkulainen et Nettinen en haut des compteurs.
Oui, c'est sûr, mais faut pas oublier que le début de saison était plus compliqué que ça, hein, parce que Turkulainen, on se posait la question de savoir si c'était le bon qu'on avait engagé. Nettinen, c'était un peu similaire, et puis voilà. Puis après, tout d'un coup, ils ont explosé. Donc, il faut leur laisser un temps d'adaptation à ce genre de joueur. Mais dans les étoiles, je pense qu'il faudrait en mettre peut-être. Quelques-unes de plus à Belmar, parce que non seulement sur ce qu'il a apporté sur la glace, mais ce qu'il a apporté hors glace. Je crois qu'on a des joueurs qui ont bien terminé la saison, bien terminé les play-outs, qui étaient pratiquement invisibles en début de saison. Je pense à Louis Robin, je pense à Garessu. Il faut savoir que Pierre-Édouard, il les a pris un petit peu sous son aile pour leur expliquer comment il fallait se préparer, comment il fallait jouer. Il était souvent derrière eux, etc. Et puis ça, c'est quelque chose de très important dans un vestiaire comme le nôtre.
Il sera encore là la saison prochaine, Pierre-Édouard Belmar?
Bien, on ne sait pas. Je crois qu'il l'a dit hein, lui-même, hein, ça dépend en fait de la participation de la France aux Jeux Olympiques. Or, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas si la France ira aux Jeux Olympiques, même si elle est virtuellement qualifiée. Par contre, si la Russie est repêchée et va aux Jeux Olympiques, la France sera éliminée.
Mais l'envie aujourd'hui, elle est claire pour le HCA, c'est conserver impérativement Pierre-Édouard Belmar.
Ah oui, absolument, ça c'est clair. Et il l'a dit lui-même, mon option c'est à Joie si je continue à faire du hockey.
On en a donc terminé avec les étoiles, on peut repartir brièvement cette fois-ci avec les épines, ça ira plus vite. L'épine du barrage, je la décerne à Marco Pedretti, ils sont plusieurs à avoir un peu déçu dans cette série quand même. J'ai malheureusement jeté mon dévolu sur l'ailier jurassien, Marco Pedretti n'a pas inscrit le moindre point en 5 matchs. J'ai pas trouvé non plus qu'il avait vraiment pesé dans cette série par rapport au calibre. En tout cas sur le papier qu'il a et puis à ses dispositions, notamment en début de saison, j'estime qu'on a le droit d'être déçu de la part de Marco Pedretti. Il n'a pas réussi la deuxième partie de saison et encore moins la fin de saison qu'on aurait pu espérer d'un joueur comme lui. Voilà donc pourquoi je décerne à Marco Pedretti mon épine du barrage précisément.
Ouais, c'est particulier parce que dans une statistique, Marco Pedretti, il est le deuxième joueur du HCA Joie à avoir le plus de tirs cadrés. Et d'un autre côté, voilà, ça a été un petit peu difficile comme ça l'a été avec cette troisième ligne avec Kien Sopa qui a été des quatre lignes, celle qui a effectivement créé, qui a su créer le moins d'offensives dans ce barrage.
Oui, effectivement, on a parfois peut-être, ou en tout cas ça, les discours qu'on a pu entendre aussi, des mots assez sévères peut-être à son encontre durant ce barrage. On savait qu'il y avait plus que quatre étrangers, donc on attendait aussi des leaders suisses dont il fait partie, qui s'illustrent, hein, qui sont un peu ces locomotives dont on a besoin. Ça n'a pas été le cas, alors il y en a certains aussi commis en avant, et je suis assez d'accord avec ça, c'est aussi son travail défensif, voir aussi ses acolytes aussi de ligne, comme tu l'as dit Rafi, c'était pas évident. Moi j'ai trouvé aussi qu'il est parfois un peu trop tendance aussi à se débarrasser rapidement de la rondelle au moment où il devait justement mener un peu cette ligne, donc voilà. Mais c'est vrai que si moi j'avais dû attribuer, ça avait été mon rôle aujourd'hui d'attribuer une épine, je pense que c'est lui qui l'aurait récolté également, quoi. Oui.
Patrick, un regard là-dessus?
C'est compliqué pour un président de critiquer ses joueurs, mais effectivement, s'il faut donner une épine, eh bien, je crois que c'est bien Marco qui a été carrément décevant dans ses play-outs, en particulier dans le barrage.
Et puis donc, on va terminer comme on l'a terminé avec les étoiles, par un petit bilan des épines de la saison. Alors il y a trois joueurs qui se, entre guillemets, distinguent dans le mauvais sens du terme, avec trois joueurs donc qui ont obtenu deux épines tout au long de la saison. C'est malheureusement pour lui donc Marco Pedretti avec la deuxième aujourd'hui, Kien Sopa et Oula Palvé. Je ne sais pas si ça porte un regard chez vous, messieurs.
Ouais, ben concernant Palvé et Sopa, c'est clairement des déceptions tout au long de la saison. Là, voilà, on attendait plus au niveau offensif de Oula Palvé, là, qui a quand même manqué cette aventure avec le HC Ajoie, là, si ce n'est ce dernier match où tout à coup il arrive à nous faire 4 points et à nous donner quelques regrets, parce que si on avait eu un Palvé capable de jouer de cette manière au centre plus souvent durant la saison, ça aurait peut-être été aussi une autre histoire, quoi.
Non, écoute, j'ai pas, peut-être je m'attendais à un autre nom dans le trio, mais c'est pas grave, quoi. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer plus tard. Mais non, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter que ce qu'a dit Rafi, quoi.
Patrick, peut-être un regard. On a parlé de Palvé notamment.
Alors sur Palvé, évidemment, Palvé, c'est la déception entre guillemets de la saison par rapport à son statut d'étranger. Il faut pas oublier que Palvé, au classement dans la Ligue en Finlande, il était devant Turkulainen. Donc si on compare ce que nous a amené Jerry par rapport à lui, c'est sûr qu'on a de quoi être déçu. Il a des circonstances atténuantes, il est venu, s'est blessé tout de suite, il a dû avoir une longue convalescence. On voit qu'il revient gentiment, en tout cas les derniers matchs qu'on a vus, mais c'est non plus pas le même niveau, faut pas oublier. Mais effectivement, on peut lui mettre une épine. Par contre, Marco, je suis pas trop d'accord, parce qu'il me semble que si on prend l'ensemble de la saison, je veux pas dire qu'on lui mettrait une étoile, parce qu'on attendait quand même passablement de lui, mais lui mettre une épine, c'est un peu sévère.
Alors c'est vraiment les épines cumulées, hein, sur les 14 émissions, donc ça veut dire qu'il en a eu une aujourd'hui et une lors d'une dernière émission. C'est pas forcément sur l'ensemble de la saison.
Okay.
C'est pas une moyenne de saison, c'est une moyenne d'émission, pour ainsi dire. Ça atténue peut-être un petit peu la chose.
Mais ce que tu dis, Patrick, c'est par rapport, c'est juste, hein, de revenir sur la blessure qu'a subie Oula avant la reprise. Ce serait peut-être aussi parfois intéressant de regarder quelles conséquences, quelle influence ça a, ces blessures, au moment où voilà, on entre dans le vif du sujet, que ça soit en fin de préparation, en début de championnat, parce que si on porte un peu un regard sur les joueurs qui sont un peu passés au travers cette année, c'est tous des joueurs qui ont une blessure plus ou moins longue, mais surtout en début de saison. Alors, il y a Oula, hein, Jonathan Hazen, il a été aussi blessé début de saison. Il nous a confié, après le dernier match, c'était peut-être sa moins bonne sur les 10 à Ajoie. Reto Schmutz aussi blessé. Thibaut Frossard. C'est tous des joueurs qui ont peut-être vécu leur moins bonne saison en National League, et puis qui ont été blessés aussi en début de saison. Il est peut-être compliqué, surtout avec le niveau de la National League, de revenir puis d'être efficace et productif en cours de route, quoi.
Mais si on va plus loin, la saison passée, on avait Philippe Michael DeVos qui était blessé au dos, qui a eu une saison compliquée. Il arrive la saison suivante à éclater comme il l'a fait cette année.
Exactement, ouais.
Peut-être que la saison prochaine, on aura, ou qu'il joue, hein, nous l'a pas levé aussi éclatant et incisif sous ses couleurs. Hein.
Et des chances qu'il ne soit pas rentré encore?
En principe, pas.
Sur le grill.
Patrick, on va profiter de ce petit moment pour revenir avec toi sur ce dernier exercice et se projeter aussi sur la suivante et les suivantes. D'habitude, dans cette séquence, on prend le temps de tracer le parcours de notre invité entre souvenirs d'exploits et anecdotes du temps qui passe. Toi, Patrick, avec tes 26 ans de présidence au HC Ajoie, pas besoin de rappeler qui tu es, 26 ans de présidence, la Première Ligue, à cette quatrième saison, bientôt 5, en National League. Et toujours la même flamme ?
Oui, bien sûr, toujours, avec quelques années en plus, mais, mais toujours la même flamme, évidemment.
Mm-hmm. Comment tu as vécu cette dernière saison qui a commencé à l'envers et qui a été après comme une longue séquence rattrapage ? Objectivement, cette saison est-elle un échec pour le HC Ajoie ?
Oui, sportivement, c'est un échec pour le HC Ajoie, ça c'est clair. Hein. On ne s'attendait jamais, par rapport à l'équipe qu'on a fait, à commencer une saison aussi catastrophique qu'on l'a commencé. Je crois que c'est jamais arrivé au HC Ajoie, et puis je pense dans d'autres clubs non plus, d'avoir un départ pareil. J'entends, et on n'a absolument aucune excuse. Faut savoir qu'on a bâti l'équipe pour cette saison 24-25 par rapport à ce qui nous manquait en 23-24. Puis si on prend 23-24, on a Wolven avait mis en place un système défensif qui était pas si mal que ça. On prenait pas trop de buts, mais on en marquait pas. On l'a dit tout à l'heure, un Deveau s'était blessé. Je sais pas s'il avait un but l'année passée ou chose comme ça, hein, mais c'était très 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 peu. Et puis on a mis l'accent sur des étrangers en attaque, sur des joueurs de valeur. Ce qui est arrivé finalement, mais on a l'impression qu'on a complètement oublié ce système défensif à l'entre-saison, et puis qu'on est arrivé là au mois de septembre complètement perdu sur la glace. Et puis on sait ce que ça a donné, il a fallu reprendre l'équipe, et puis après ça a tourné un peu mieux, ça a tourné mieux, nettement mieux que ce qu'il y avait, mais on était capable de rivaliser après avec tout le monde, hein. faut pas oublier, on a battu Zug, on a battu Zurich. J'entends, il y a des choses positives à retirer de cette saison qui, au niveau résultat du premier tour, était quand même catastrophique.
Bon, ben, allez, cite-moi une chose positive qui te tient, qui vient en tête là, pour marquer cette saison.
Ah ben, la chose positive, encore une fois, hein, on a vaincu Zurich, on a vaincu Zug, on a gagné à l'extérieur beaucoup plus que ce qu'on a gagné, malgré qu'on n'a pas gagné beaucoup la saison d'avant. On a de jeunes joueurs qui ont prouvé qu'ils pourraient continuer l'aventure en National League, comme un Robin, comme un Garessu. Donc tout ça est positif. J'entends le négatif, même au fond, il y en a beaucoup, mais on va le laisser de côté.
Bon. Et puis le positif aussi, peut-être l'appui inconditionnel, j'ai envie de dire, du public.
Ah oui, celui-là.
Pas certain que beaucoup d'équipes auraient toujours une patinoire remplie à 80-90% chaque match, avec des résultats ou une situation classement comme ça.
Oui, effectivement, il y a eu un petit peu de trouble à fin septembre quand ça gagnait pas. C'est normal, hein, j'entends, on était tous dans le même cas. Il y en a qui s'expriment un peu plus que d'autres, mais c'est une grande satisfaction pour le HCA et la suite du HCA, c'est-à-dire que on ne peut que s'améliorer. Et puis on voit que la patinoire, effectivement, elle est remplie à 86% sur l'ensemble de la saison. Donc c'est un résultat assez extraordinaire par rapport aux résultats sportifs. Et on remercie l'ensemble de nos supporters pour nous soutenir dans tous les états d'âme qu'on peut avoir dans une saison comme on l'a vécu la saison passée.
Cet appui du public, des partenaires aussi, on dit qu'il est inconditionnel. Il peut l'être à vie inconditionnel, ou il y a un moment peut-être que... Vous n'avez pas peur que le public, entre guillemets, se lasse des mauvais résultats et des dernières places si celles-ci continuent à arriver ?
Alors, c'est clair. C'est clair que le public, à un moment donné, risque de se lasser si on est toujours dans des résultats pareils. Maintenant, il faut savoir qui on est et puis où on va. Je crois que c'est ça qui est important. Hein. On ne sera jamais Zurich, on ne sera jamais Zug, on ne sera jamais Berne, on ne sera jamais Fribourg. Ni Lausanne, on doit se comparer un petit peu à des Langnau, à des Ambry, qui eux aussi étaient pendant des saisons et des saisons derniers, play-out, etc., risquaient leur peau, puis gentiment, ben, ils ont mis en place une structure dans leur mouvement junior qui leur a permis de développer ça. Et puis on voit comme cette année, ben, après 7 ans, hein, la dernière fois que Langnau a fait les playoffs, c'était en 2018, je crois. Donc après 7 ans, ils arrivent à faire des playoffs et puis à faire une bonne saison. Mais il a fallu 7 ans plus tout le reste pour arriver à sortir des jeunes qui sont issus de leur mouvement junior et puis qui amènent un petit peu un plus dans l'équipe. C'est ce qu'on est en train de faire depuis maintenant quelques années, mais ça prend du temps. Et puis, on a de très bonnes équipes juniors moins de 17 ans qui sont vice-champions suisses. On a nos juniors élites qui sont dans les trois premiers. Donc, ça avance. On a professionnalisé ce mouvement junior, mais il faut le temps de développement. Et puis, d'ici là, il faut tenir. Et puis, mais il faut aussi montrer une meilleure figure. Je crois que le public, si on perd 3-2 contre Zurich, il va rien dire. Mais si tous les matchs, on perd 5-0, comme le premier match qu'on a perdu ici contre Berne, on n'a pas vu le puck. Ça va pas le faire, quoi. C'est des choses qui ne sont pas admissibles.
Donc pour toi, cette position de lanterne rouge depuis 4 ans, elle est pas devenue inéluctable, quoi. Mais comment faire maintenant pour franchir un cap, pour aller chercher la 12e, la 11e, peut-être, voire là.
Il faut développer, il faut travailler, il faut trouver des jeunes qui en veulent, parce que on aura pas les moyens, on n'a pas les moyens d'aller chercher des joueurs, par exemple, qui sont en équipe nationale et puis qui nous permettent pas d'entrer dans notre budget. Donc notre rôle, c'est ça, hein, c'est développer des jeunes. Quand ils seront bons, ils partiront peut-être dans des clubs qui sont capables de leur offrir un meilleur futur, au niveau financier en particulier. Et puis avoir des bons étrangers, des bons gardiens, et puis continuer comme ça. Puis essayer de viser cette 10e place comme on l'avait un peu visé cette année.
Tu parlais de construction, de développement, ça prend du temps, effectivement. Est-ce que t'as l'impression que les gens, des fois, n'ont pas la patience nécessaire, parce que c'est vrai que tu évoquais Langnau ou bien Ambry aussi. Il y a aussi l'exemple, je trouve, peut-être le plus parlant, qui est du HC Bienne, qui est monté, je crois, en 2008. Les premières années où je les suivais, moi, je crois que sur les 5-6 premières années, ils ont fait 4 ou 5 fois les barrages, et les barrages et pas les play-outs. C'était aussi une sacrée galère, quoi, pour les gens qui les suivaient, pour tout le monde, et ils sont développés. Est-ce que ça peut être un peu un exemple aussi dans l'épanouissement et le temps nécessaire pour y arriver?
Oui, bien sûr. Le HC Bienne est aussi un exemple flagrant de ça. J'entends, ils ont développé leur mouvement junior depuis le début, depuis qu'ils sont montés dans cette ligue. Et puis on voit pertinemment qu'ils ont franchi ce palier supplémentaire. C'est un peu la même chose avec Rappi. Rappi, il y a quelques années, c'était toujours les traînards de la ligue. Aujourd'hui, s'ils font pas les playoffs, c'est une déception. Bienne, c'est la même chose. Mais voilà, il faut ce temps-là. Après, on a une région qui est quand même pas Bienne, qui est quand même pas Rapperswil. Donc, on a quand même des moyens un peu plus limités. C'est pour ça que je nous compare un petit peu plus
à votre échelle
financière globale que par rapport à Bienne, qui a quand même des possibilités au niveau économique qui sont plus importantes que les nôtres.
C'est un petit peu le nœud du problème. Puis on revient toujours à la même question, là, parce qu'au niveau des étrangers, on voit que le HC Ajoie est capable de régater. Au niveau des gardiens, là aussi, c'est des gardiens de valeur et bien établis en National League. Comment on fait pour aller chercher des bons joueurs suisses, quoi, puis les attirer à Porrentruy? On en revient toujours à cette question.
Oui, il faut avoir un peu d'argent. Voilà, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais j'entends, nous, on a un budget quand même qui est assez important par rapport à la région. Hein. J'entends, il dépasse les 15 millions quand même, si on prend le budget global du HC Ajoie et de son académie. C'est compliqué de franchir un pas supplémentaire avec quelques millions de plus en une saison, surtout quand on a une situation économique comme on l'a vu aujourd'hui au niveau de l'horlogerie en particulier. Donc allons-y pas à pas, essayons de minimiser les erreurs, et puis on va franchir des caps.
Oui, puisqu'on parle de budget, on a une question de Mathieu de Fontenay qui demande si le budget pour le contingent du HCA peut augmenter ces prochaines années.
Bien sûr qu'il peut augmenter ces prochaines années. Mais pour ça, il faut que les étoiles soient alignées, c'est-à-dire que nous, on investisse aussi au niveau de l'infrastructure, ce qu'on est en train de faire, pour donner de nouvelles visibilités à nos sponsors, notamment la construction des loges, là, qu'on a commencé, les travaux ont commencé avant-hier. Et on sera prêt pour la saison prochaine. Là, c'est 8 loges qui sont d'ores et déjà vendues. Donc c'est quelque chose d'important pour la HCA, hein, c'est un apport complémentaire non significatif. Et puis le reste, on aura toujours nos sponsors, ils sont avec nous, ils nous suivent, mais c'est assez compliqué d'augmenter, donc on doit aller pas à pas et puis trouver des solutions complémentaires. Augmenter le nombre de places, par exemple dans la patinoire, on va passer l'année prochaine à 5290 places. Alors je vous rappelle que quand on est monté, on est à 4850, donc tout ça c'est aussi des investissements que le HCA a fait. Et puis essayer de stabiliser tout ça avec effectivement quelques recettes complémentaires en ce qui concerne les entrées match, sans pour autant augmenter les places des matchs, parce que ça, je crois que c'est important. Il faut, on est dans une petite région, on doit faire en fonction aussi du pouvoir d'achat des gens, et on peut pas se permettre de faire des places à 250 francs comme certaines grandes villes le font sur une place assise en pleine saison.
Donc tu nous dis là que pour la saison prochaine, il y aura pas d'augmentation de tarifs.
Non, il y aura pas d'augmentation de tarifs l'année prochaine.
Ouais. Juste au niveau financier, là, avec ces 6 matchs en plus disputés dans cette additionnée de la saison, il y aura un bénéfice qui sera dégagé, à ton avis, après cette saison 2024-2025?
Alors, c'est pas, les comptes ne sont pas encore faits, ça c'est clair, mais disons qu'on est dans le budget, donc on devrait, s'il n'y a pas de bénéfice, on devrait atteindre l'équilibre.
J'aimerais juste rebondir sur le mode de championnat là, et puis ce barrage qu'on a vécu face à Viège. Là, on a beaucoup entendu le manager de Viège, Sébastien Picot, se plaindre des règles du jeu avant le début de ce barrage. Vu d'en haut, vu de National League, de ta position, Patrick, comment tu juges ce mode dans ce duel de promotion relégation? Pour toi, les dés sont pipés?
Non, les dés sont pas pipés parce qu'on a vu quand même qu'il y a des équipes de National League dans les dernières années qui ont quand même été reléguées. Mais c'est surtout des équipes qui étaient malades financièrement. Quand on prend Bâle, par exemple, là, qui a coulé à l'époque contre Bienne. Puis j'en ai encore, je pense qu'il y avait Langnau aussi, à un moment donné, qui a coulé. Je ne sais plus quelle équipe était remontée à sa place, mais ils étaient en grande difficulté financière. Donc le budget qu'ils avaient établi ne correspondait pas à leur capacité économique. Donc à un moment donné, on est étouffé. Et puis là, on lâche tout, quoi. Maintenant, évidemment, moi, en Swiss League, j'étais un peu de l'avis de Picot. En National League, je dis à Picot, mais non, c'est tout à fait logique de faire comme ça. Donc, chacun défend son beefsteak. Moi, vous savez, j'ai même dit, mais il faudrait même l'agrandir, cette National League. Alors, quand je dis ça, que ce soit de niveau chez le directeur ou Willy Föcklin ou certains de mes collègues de National League, sont pas très contents. Mais finalement, il faut quand même se poser les bonnes questions. Le problème, c'est pas la National League, le problème, c'est la Swiss League. Swiss League qui n'est pas viable. Et puis en Swiss League, il y a des clubs qui sont en train d'investir des dizaines et des dizaines de millions dans des infrastructures. Je prends par exemple la Chaux-de-Fonds ou Sierre, le projet de Sierre, etc. Mais si ces équipes-là ont des infrastructures qui permettent d'accueillir 5-6 000 personnes et puis qu'ils arrivent à s'autofinancer, pourquoi ne montraient-ils pas dans une ligue assez? On voit que le public, il vient, il est friand de cette Ligue nationale. Ce qui n'est pas le cas en Swiss League, à part les 2-3 premières équipes. On parle de Viège, j'entends leur moyenne durant le championnat, je sais même pas si c'est 2000 personnes, et puis au dernier match ici, alors qu'ils peuvent le gagner et puis avoir un match chez eux, on compte 24 spectateurs.
Tu dis à Port-Antruy, hein,
Port-Antruy. Oui. Donc j'entends, c'est dramatique de jouer, on n'arrive pas à faire des budgets quand on a des choses pareilles qui arrivent. Donc si, pour moi, si l'idéal, ce serait que les équipes qui ont un projet infrastructure, qui ont les moyens de pouvoir montent dans une ligue qui s'appelle National League, et puis une Swiss League qui serait peut-être une Swiss League mélangée avec My Sport League, My Hockey League aujourd'hui, et puis on aurait deux ligues, et puis chaque équipe de National League devrait avoir une équipe ferme dans une ligue inférieure pour pouvoir former des joueurs. Mais je suis à peu près le seul sur les 14 équipes à être d'accord avec le principe.
Donc tu défends une ligue fermée, c'est voilà. ça
Alors à ce moment-là, oui, elle n'est pas fermée. Non, c'est pas tout à fait juste. La ligue, elle est ouverte, mais un petit peu comme aux États-Unis, vous pouvez avoir une concession moyennant des finances, moyennant des infrastructures qui vous permettent d'évoluer à un certain niveau. Et sportivement, s'ils sont premiers, ben voilà, ça pourrait se faire. Parce qu'on dit, ouais, c'est un peu fermé. Mais vous savez qu'en Allemagne, où il y a une relégation et puis une promotion, vous savez que le promu, quand il s'annonce avant la saison, il a l'obligation de donner 1 million d'euros aux relégués. Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas chez nous ici autour. On dit en Allemagne, la Ligue, elle est ouverte. Oui, elle est ouverte. Le dernier qui coule, il reçoit 1 million de celui qui monte. Donc celui qui monte, il a préparé un budget avec 1 million en plus pour donner à celui qui descendra. Puis celui qui descendra, ben, descend avec 1 million, ça lui permet de refaire une équipe puis de repartir un petit peu à zéro.
On a parlé tout à l'heure de transfert déjà ou de joueurs. Il y a plusieurs questions d'auditeurs. On peut les passer rapidement avec certaines rumeurs. Hein. On a les rumeurs. On a la question, qu'est-ce qui manque pour avoir des joueurs comme Pouliot et Motet chez nous? On a la question, est-ce que le jeune Eschbar va signer, si oui, quand? Et puis, on a encore une question où Kylian Motet revient. Voilà. Les données sont posées. Qu'est-ce que tu as à en dire?
C'est des bonnes questions. Alors, en principe, c'est pas moi qui m'occupe des transferts, mais je suis quand même un petit peu au courant. Concernant Cédric Eschbar, il a encore un contrat à Bâle, mais c'est des choses qui pourraient éventuellement se discuter, mais ça ne sera pas avant le mois de mai-juin. En ce qui concerne Kylian Motet, la situation de Kylian Motet, il a un contrat jusqu'en 2027 à Fribourg, contrat relativement onéreux. Et c'est clair que s'il ne joue pas, on l'a fait savoir, que nous, on serait intéressés à reprendre une partie du contrat, parce qu'on ne pourra jamais honorer l'intégralité du contrat. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend uniquement de Fribourg-Gotteron. Mais si on avait la possibilité de ramener Kylian Motet au HC Ajoie, on le ferait demain matin.
Et puis encore une autre question concernant les étrangers. Est-ce qu'il y a déjà des pistes concrètes pour occuper les ou la dernière place pour l'étranger?
Oui, il y a des pistes concrètes.
La suite au prochain épisode.
C'est ça. Voilà, je crois que c'est en pleine discussion aujourd'hui. C'est trop tôt pour le dire. D'ailleurs, souvent, ça sort dans la presse avant qu'on ait signé, parce que ça peut venir des États-Unis, du nord de l'Europe ou de n'importe où. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet actuellement.
Et au niveau étranger, je crois que Julien Vauclair nous l'a un peu confié à tous, en tout cas séparément. Vous partez du principe que Ajoie démarrera la saison avec 7 joueurs étrangers à la reprise de septembre?
Oui, parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'année passée. Quand je veux dire, à la fin, on s'est retrouvé dans une situation catastrophique. On a eu la chance de trouver Onka puis de trouver Pierre-Édouard Belmar. Si ça n'avait pas été le cas, s'il y a ces deux stars, entre guillemets, parce que c'est deux stars, n'avaient pas été disponibles, on aurait été dans une situation encore plus compliquée que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on va essayer de mettre 7 étrangers sous contrat. Dans les plus brefs délais, sachant que jusqu'à quand Philippe Michael de Vos sera étranger.
Question de mois, de semaine.
On parle de 2026, mais 2026, c'est quel mois de 2026?
Okay.
C'est janvier ou c'est mai ou c'est juin? Ça fait une belle différence pour nous.
Et oui. Voilà, mathématiquement, vous avez déjà 5 étrangers sous contrat, vous en voulez 7. Vous imaginez que Pierre-Édouard Belmar pourrait être en position de prolonger. Donc ça veut dire qu'il reste une place, c'est ça? Et plutôt un défenseur, si j'ai bien un petit peu suivi.
Oui, on partirait plutôt sur un défenseur. Je crois que on a eu des équipes jouer avec 2 défenseurs, qui sont des équipes, je dirais, entre guillemets, pas de bas de classement, mais des équipes moins fortes que les six grands, comme Kloten, comme, comme Ambry, comme
Langnau,
et puis on voit que ceux-là, avec leurs deux étrangers en défense, ben, ils s'en sont pas si mal sortis. Hein. Même Ambry, des fois, aurait trois étrangers en défense à certaines périodes. Donc un seul, ça devient un peu compliqué.
Dans l'œil de la vouivre.
Pour boucler la boucle de cette saison 2 de la bande du jeudi, j'ai pensé qu'il serait sympa de terminer sur un quiz qui revient sur les moments forts de cette saison 2, mais un peu aussi évidemment sur celles que nos jaunes et noirs ont livrées sur la glace. 5 questions pour vous, messieurs. Une question un peu plus tard pour nos internautes, nos auditeurs. On commencera en douceur. Enfin, douceur, façon de parler, hein, vous comprendrez pourquoi. Lors de la première émission enregistrée avant la reprise, nous avons accueilli le capitaine Kevin Fay, adepte comme toujours hein, des bonnes formules et des sorties inattendues. Dans ce registre, quel dicton nous a-t-il sorti à la question de Rafi, qui était de savoir si le HCA était capable de quitter la dernière place cette saison? Je pense qu'ils l'ont en tête, mes deux camarades, mais ils n'osent pas le dire.
Je me rappelle pas.
Ça finit par le doigt qui pue.
C'est amnésique, là.
Ah oui, là.
Hein? Le doigt qui pue, c'est ça? Ça finit
non,
comme ça?
Non.
C'est pas ça?
Non. Hein? Ça ressemble. Non. Ne voulez pas.
Non, mais si, mal en gauche.
Celui qui se réveille avec le doigt qui pue s'est endormi avec le cul qui gratte.
Voilà. Oui, c'est ce qu'a dit Michel.
Ouais. Un petit bout.
Ouais, c'est un grand moment de poésie.
Oui, c'est vrai, ouais.
Moi, j'ai oublié de vous dire que pour la dernière, j'avais une toute petite surprise pour le vainqueur de chaque question. Ah, peut-être ça vous incitera
à
vous le sortir un peu aussi ouais, aux prochaines questions. Deuxième question. Citez-moi le nom du premier buteur à Joulot cette saison, mais aussi le résultat du premier match de championnat.
Alors, c'est vous l'a pas levé.
À Fribourg.
Vous l'a pas levé à Fribourg, powerplay 1-0.
C'est le 1.
C'était le 1 ? Ah oui, c'était le 1.
Et le score final, Patrick ?
On a perdu 3-1.
Voilà. Non, 4-1.
4-1, ah,
ouais. 4-1. Pas les buts dans le but.
Ouais. Ou la Palvé qui aura donc été le premier et, le mais aussi buteur. Le dernier buteur du HCA lors de cet exercice 2024-2025. Bon, j'avais 5 questions, 5 petites attentions. Comment ça est distribué ? C'est qui alors qu'un... C'est toi, hein, Rafi ?
Ah, là, c'est Rafi. Ouais.
Chocolat, t'es plutôt quoi ? Noir, brun, blanc ?
Me chocolat blanc.
Chocolat blanc. Je me suis dit que
j'apprécierais. C'est bientôt Pâques. Ah là 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 là.
Avant Pâques, un petit lapin, voilà pour toi. Je te le catapulte ou tu le
rigoles. Hop là, merci. Un petit larbet de Pâques.
Voilà. Question 3. Que ce soit entre nous ou avec nos invités, on partage tout, hein, souvent sans le moindre filtre. Quel invité s'est fait traiter de tête de cochon par l'un des 3 journalistes présents ici autour de la table? Un de nous 3 a traité un invité de tête de cochon. Qui était cet invité?
Ah, c'est moi.
Ah oui, la saison, elle est finie, vous avez oublié.
C'était Philippe Michael DeVos.
Bien joué.
C'était l'enregistrement à Moutier.
À Moutier, et c'est Michel qui l'avait traité de tête de cochon.
Alors, volontiers chocolat brun.
Michel qui s'est vite rattrapé, hein, en précisant que c'était à prendre dans le bon sens du terme, que c'était pour dire que notre fille est très tenace, qu'elle s'accroche. Une belle manière d'adoucir les angles.
Je ne m'en souviens même pas. Okay. Mais c'est vrai, oui.
À brun, ça te va?
Oui.
Voilà.
Armand Pack.
T'as faim, Michel?
Ouais, j'ai faim. Mais
écoute,
il est meilleur que moi, il faut l'avouer.
Je pensais que c'est là au moins.
Même pas.
Bien, 4e question. Lequel de nos invités a commencé sa carrière sur glace, non pas dans le hockey, mais en patinage artistique? Rafi, là, mais oui.
Il est fair play, ouais. Mais moi, je ne l'ai pas non plus.
On a eu un invité cette année qui, avant de pratiquer le hockey sur glace, a commencé avec le patinage artistique.
Poison?
Non.
Bon, l'indice, c'est qu'il n'a pas fait une grande carrière de hockey.
Non, il n'a pas fait une grande carrière.
C'est Boris Gelé.
Voilà, Boris Gelé.
Ah, Boris, oui.
Voilà. Le chef Matt
du HCA qui nous a fait le plaisir de sa venue début février. Il a pratiqué le patinage artistique jusqu'à 13 ans avant de bifurquer dans le hockey sur glace. Il a un titre d'ailleurs de, je crois, 3e division.
Ou 4e division française, oui.
D'ailleurs,
oui,
grâce à lui, à ton quiz Rafi, on a pu apprendre davantage sur l'intimité des joueurs. Petite question subsidiaire, est-ce que vous vous souvenez qui est ce joueur qui râle le plus à l'entraînement et qui possède les pires superstitions d'avant-match?
Fischer.
Yannick Fischer. Yannick Fischer, exactement. Bon, vainqueur de cette question, c'est toi, Michel.
Ouais, petit vainqueur.
Tu veux du quoi?
Celui que tu as, celui qui te reste.
Alors, c'est le noir.
Merci.
Tiens. Bien, dernière question. Non, cinquième question encore. Une dernière encore pour vous. Donnez-moi, on a parlé indirectement avant dans ton introduction sur les étoiles et les épines, Michel. Donnez-moi le nom de ce joueur qui a abondamment garni notre rubrique des étoiles cette saison, d'abord en récoltant en tout cas une épine, même si je crois qu'on en a parlé, il aurait pu en récolter plusieurs, puis en décrochant de multiples étoiles. Il a commencé la saison avec une épine et puis il a enchaîné les étoiles.
Bah, c'est soit Nettinen, soit Turkulainen. Ouais,
on a eu les deux. Hein. Mais Turkulainen a eu moins d'étoiles que
je pense que c'est Nettinen qui a commencé avec une épine.
C'est Nettinen qui a commencé avec une épine.
Première émission, une épine, c'est ça?
Je crois, ou deuxième en tout cas.
Turkulainen, dans les trois premières, il en a une aussi, mais je ne me souviens plus laquelle.
D'accord, ouais. Moi je pense à Nettinen, Rafi bien joué.
Ouais, c'est juste, ouais.
Ah, j'ai la collection, là.
Je te donne le noir, comme ça, t'as la panoplie.
Il a tout.
Merci.
Bien. Ben écoute, j'avais prévu 6 petits lapins au chocolat, puis il y avait 5 questions. Ben du coup... Tiens, je te l'offre, Patrick, plein d'échange.
Merci.
Un abonnement tribune pour la saison prochaine. Hein, c'est un bon deal. Bien, ma dernière question, cette fois-ci, elle s'adresse directement à nos internautes. C'est pas parce que c'est la dernière qu'il n'y a rien à la clé. Pas de lapin au chocolat, mais un joli cadeau aux couleurs de la bande du jeudi. C'est ce que nous offrons encore aux vainqueurs de notre jeu. Mais avant de la poser, il est temps de récompenser aussi le vainqueur de notre dernière émission. C'était le 6 mars, je crois, en tout cas début mars, avec Julien Vauclair. La question posée par Cyprien était celle-ci. Il fallait citer le nom d'un des deux joueurs du HC Lugano qui a porté les couleurs du HCA par le passé. Cyprien, la réponse? Ah ben non, j'oubliais que sa licence B n'a été activée que le temps d'une émission. Donc il fallait bien entendu répondre le défenseur David Ebischer, qui a fait une petite pige de 4 matchs en Swiss League durant la saison 2020-2021. Il était alors à Fribourg. Ou le gardien Dominique Niffler, pas confondre avec le frère Melvin. Dominique Niffler, qui a passé 2 saisons à Port-Autruy entre 2017 et 2019. Et c'est Ludovic Plon de Boncourt qui a répondu correctement et remporte donc le prix. Bravo à toi, Ludovic. Nouvelle question pour vous donc, chers internautes. Allez, je suis certain que vous aurez la réponse, même ici autour de la table. Elle est pas compliquée. La voici. Qui nous a confié ceci lors de son passage il y a quelque temps? Les difficultés de mon enfance ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Je répète, les difficultés de mon enfance ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Pas d'indice.
Ça doit être un joueur qui doit avoir un grand vécu, à mon avis.
Voilà.
Et c'est une émission à réécouter, hein, franchement.
Tout à fait.
C'était un grand moment.
Comme ouais. toutes.
Comme toutes, oui. Mais celle-là en particulier.
Voilà. Donc pour répondre, comme d'hab, hein, vous retrouvez le formulaire sur le site d'RFJ, onglet émission. Ou vous inscrivez vos coordonnées et la réponse à la question, ou alors directement à l'adresse bdj@lqj.ch. Voilà, c'est sur ça que le manège enchanté, que cette deuxième saison se termine, c'est juste?
C'est ça, oui. Et ben merci déjà Patrick d'être venu.
Merci à vous.
Merci évidemment aussi au HC1 de jouer le jeu de la venue des joueurs dans nos studios pour enregistrer cette émission. Merci aussi Julien, merci Rafi pour cette deuxième volée de la bande du jeudi.
C'était avec grand plaisir.
Merci à vous, chers collègues.
Et on rappelle très volontiers à ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver tous les numéros sur lqj.ch ou rfj.ch. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de très belles vacances hockeyistiques. Merci encore pour votre fidélité.
La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.